Alléluia.
Je suis particulièrement heureux d'être avec vous ce soir. Je remercie le pasteur de me donner cette opportunité de partager la parole de Dieu avec vous au travers de ce qu'il a fait dans ma vie. Vous savez, moi, je n'ai pas fait beaucoup de théologie, j'ai fait une école biblique, mais Dieu m'a toujours montré qu'en réalité, il y a quelque chose qui est irréfutable dans la vie d'un homme, c'est son témoignage. Et je crois que c'est valable dans votre vie. Ce que Dieu a fait dans votre vie, c'est ça qui fait la force de ce que vous êtes. C'est votre rencontre avec Dieu, n'est-ce pas vrai? Amen. Alors, je vais me présenter brièvement. Donc, j'ai exercé le ministère pastoral pendant 7 années. Et aujourd'hui, je travaille essentiellement dans le domaine de l'évangélisation. Je suis rattaché à une église qui s'appelle Source de Vie, qui se trouve à Sarcelles. Et je travaille aussi avec Agapé Mosaïque. Je pense que vous avez vu l'un des responsables, Saïd Oujibou. Vous l'avez vu, il est passé chez vous. Il y a quelques membres d'Agapé Mosaïque qui sont là ce soir et qui sont aussi venus nous soutenir ce matin, et nous vous en remercions. Donc je travaille aussi avec Agapé Mosaïque dans le domaine de l'évangélisation, plus particulièrement vis-à-vis du peuple musulman. En 2007, mon épouse et moi, nous avons fondé une maison d'édition qui s'appelle Gospel Prod Service, dont la ligne éditoriale est principalement basée sur le témoignage. Nous éditons, nous publions des témoignages. Et nous proposons ces témoignages aux églises, aux librairies comme outil d'évangélisation. Alors à ce jour, il y a 2 livres qui ont vu le jour. Le premier, c'est « Sortir du rejet », dont je suis l'auteur. Et le second, c'est « 52 964, des ténèbres à la lumière ». Donc c'est une biographie. Ces 2 livres, vous les trouvez au comptoir de la librairie. C'est des livres à petit prix qui sont faits pour offrir. C'est pour ça que celui-ci est à 1,50 €. Et à 1 euro à partir de 5, et celui-ci est à 3 euros et 2 euros à partir de 5. C'est pas cher, mais ça peut sauver des vies. Amen. Et alors, je vais répondre à une question. Pourquoi ce chiffre? 52 964, c'est une question qu'on me pose très souvent. Eh bien, c'est tout simplement le numéro d'écrou que l'administration pénitentiaire de Bois d'Arcy a bien voulu m'octroyer. J'étais le matricule 52 964. Il faut dire que je n'ai pas eu une vie facile puisque j'ai été abandonné par mon père, abandonné par ma mère. Et j'ai grandi donc au sein d'une famille d'accueil de la DAS. Après, la main de votre frère qui est à côté de vous. Et lui dire, tu es au bon endroit ce soir. Tu as choisi la bonne part. Celle qui ne te sera jamais ôtée. Et maintenant, vous lui faites un beau sourire. Vous lui montrez vos belles dents. Et vous lui dites, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Amen. Ça fait tellement du bien d'entendre que Dieu nous aime. Même si la vie n'est pas toujours facile, il y a des hauts, il y a des bas, c'est pas toujours facile. Je l'admets, et nous vivons dans un monde qui est où les choses vont vite, les gens ne prennent même plus le temps de se dire bonjour, alors il faut prendre le temps, nous en tant qu'enfants de Dieu, de s'arrêter, et non seulement de nous dire que Dieu nous aime, mais qu'on s'aime dans l'amour du Seigneur. C'est vrai, c'est pas vrai. Nous sommes des témoignages vivants, eh bien, parlent, racontent ce que Dieu fait dans leur vie, mais racontent aussi les merveilles que Dieu veut communiquer à son peuple, mais aussi à tous ces gens qui se meurent. Amen. Est-ce qu'on peut courber les fronts un instant, remettre ce moment dans les mains du Seigneur? Seigneur, Dieu de grâce, je te loue, je te bénis, Seigneur, pour ce moment. Merci parce que c'est toi qui nous as conduits dans ton admirable présence. Merci parce que tu as décidé que nous soyons là ce soir. Nous voulons nous en remettre à toi, Seigneur. Nous voulons réellement nous soumettre à ta parole et écouter ta parole qui a le pouvoir de nous guérir, guérir les plus profondes blessures dans nos âmes. Nous amener réellement la révélation, la communication des profondeurs de ta connaissance, Seigneur. Nous voulons réellement aspirer à devenir de plus en plus intime avec toi, afin de marcher chaque jour avec toi, afin d'être ces enfants, Seigneur, qui sont soumis totalement à ta parole, à ta volonté. Seigneur Dieu de gloire, je te loue parce qu'il y a des délices éternels dans ta présence. Je te loue parce que tu nous accordes audience ce soir. Je te bénis parce que tu dis dans ta parole que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es là et tu es au milieu de nous. Et nous savons que là où il y a ta présence, Seigneur, il y a la vie. Savons que là où il y a ta présence, il y a la plénitude de ton esprit. Nous savons que là où il y a ta présence, ton esprit agit. Et que là où ton esprit agit, il y a des guérisons, des miracles et des prodiges. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons vraiment nous remettre à toi et nous te demandons, parle à nos cœurs, parle à notre conscience. Ébranle-nous, affecte-nous, remue-nous, montre-nous les choses qui ne vont pas. Montre-nous notre position devant toi ce soir. Que réellement nous puissions repartir, challenger, renouveler, fortifier dans notre être intérieur et que plus jamais nous soyons les mêmes. Dans le nom de Jésus, amen. Donc ce soir, j'aimerais vous parler du rejet. J'ai écrit un livre dessus, il m'est vraiment facile de parler du rejet de par mon expérience. Je ne pourrais pas vous résumer en une réunion tous les enseignements qui sont dans ce livre, mais je vais par la grâce de Dieu vous exprimer en tout cas ce qu'il a mis sur mon cœur. Amen. Je dis amen. Amen. Vous m'excusez si je vous réveille un peu? On va se réveiller ce soir. Vous savez, la parole de Dieu, elle est vivante. Amen. La parole de Dieu, elle n'est pas morte. La parole de Dieu, elle pénètre les cœurs. La parole de Dieu, elle apporte la vie. La parole de Dieu, elle fait ce que le Père l'a envoyé faire. Elle produit ce que le Père l'a envoyé produire. Amen. Et je veux croire ce soir que cette parole va produire des choses dans votre vie. Amen. Vous savez que le suicide est deux fois plus meurtrier que les accidents de la route. Chaque année en France, 160 000 personnes tentent de mettre fin à leur jour et 12 000 y parviennent. Lorsque nous parcourons nos familles, nous voyons un peu ce qui se passe. Tout cela pour vous dire que les mariages ne font plus recette. Aujourd'hui, 45% des couples divorcent et on est à l'ère du pax, de la facilité. Bref, le mot famille a perdu sa valeur. C'est vrai, c'est pas vrai. Les enfants se rebellent, se soulèvent contre l'autorité parentale. Aujourd'hui, dans l'actualité, on parle même d'un projet d'incarcération à 12 ans, c'est terrible. En 2005, nous avons pu voir notre jeunesse sortir de sa banlieue, de ses prisons à ciel ouvert, sortir de son silence, prendre en otage les autorités, se soulever contre les policiers, mettre en feu les voitures, mettre en feu les commerces. Tout cela, mes frères et sœurs, n'est que le reflet de cette crise d'identité. Notre jeunesse ne se retrouve pas dans notre société. Notre jeunesse ne se retrouve pas dans la démarche de l'État. Et aujourd'hui, dans toutes les classes sociales, les sociologues observent une consommation extrême de cannabis, d'antidépresseurs, d'alcool. Savez-vous que la France est l'un des plus grands consommateurs d'antidépresseurs en tout genre ? Aujourd'hui, la cocaïne n'est plus la drogue du riche, c'est aussi la drogue du pauvre. Aujourd'hui, le cannabis, on en parlait tout à l'heure avec une sœur, n'est plus la drogue du pauvre, c'est aussi la drogue du riche. Aujourd'hui, on pallie à un mal-être, on essaye d'étouffer une tristesse, une vague à l'âme, avec des antidépresseurs. On essaye de colmater cette tristesse, ce profond mal-être qui est en nous, à coup de cachet. Mais tout ceci n'est qu'un signe annonciateur du profond mal-être qui règne au sein de ce monde. Dans les églises, chaque jour, je dis chaque jour, nous accueillons des personnes qui sont brisées, piétinées par la vie. Et je pèse mes mots. Chaque jour, nous voyons des personnes arriver dans l'église en rampant, des personnes qui sont complètement déstabilisées, bouleversées par leur vie. Chaque jour, nous les accueillons. L'Église est un hôpital et l'Église accueille les blessés. Les blessés de qui ? Cet ennemi vindicatif qu'on appelle Satan. Vous savez que le diable s'est toujours employé à détruire ce que Dieu fait ? Je dis que le diable déteste tout ce que Dieu fait. Là où c'est bon, le diable apporte le mal. Là où il y a la beauté, là où il y a réellement la joie, le diable apporte la tristesse et le désarroi. Il fait tout pour s'opposer à ce que Dieu fait dans la vie d'un homme. Et dès la Genèse, je dis dès la Genèse, il en a été ainsi. Rappelez-vous, Adam et Ève dans le jardin d'Éden ont transgressé la parole de Dieu parce que le diable s'est présenté devant eux et parce que le diable les a poussés à la désobéissance. C'est vrai, c'est pas vrai? À cause de cela, Genèse 3, à partir du verset 15 jusqu'au verset 19, nous parle de cela. À cause de cela, il y a eu un châtiment, il y a eu un jugement. Le diable a été maudit, le sol a été maudit, mais la seule personne, je dis la seule personne qui n'a pas été maudit, c'est l'homme. Le serpent a été maudit, la seule personne que Dieu n'a pas pu maudire, c'est l'homme. Tout simplement parce que Dieu a toujours eu un plan de rédemption, de rachat pour ses enfants. Quelqu'un a dit un jour, si Dieu avait une faiblesse, c'est l'amour. Parce que Dieu ne peut pas s'empêcher d'aimer ses enfants. Dieu ne saurait faire autre chose. Il nous aime. Je dis qu'il nous aime. Dieu ne peut pas s'empêcher d'aimer ses enfants. Mais à cause de cette transgression, Adam et Ève ont été exclus, chassés de la présence de Dieu, chassés du jardin d'Éden, cet endroit merveilleux où ils jouissaient d'une communion parfaite et intime avec leur Père. Dieu ne leur cachait rien, Dieu était un Père qui pourvoyait à leurs besoins. Bref, c'était la joie complète pour Adam et Ève. Mais à cause de cette transgression, les voici errants, souffrants, travaillant dur la terre pour vivre, pour survivre. Désormais, mes frères et sœurs, ils allaient connaître la vallée de l'épreuve. Désormais, ils allaient connaître la solitude. Et je suis sûr, certain, qu'un vaste sentiment de rejet dut les saisir. Imaginez-vous, Adam et Ève se ressasser tous ces moments majestueux qui passaient avec le Père dans le jardin d'Éden. Ils se sont sentis rejetés. Ils ont été blessés pour l'éternité dans leur âme. Je dis que le rejet, ce n'est pas un phénomène nouveau, mais ça reste l'une des armes les plus dévastatrices du 21e siècle. Quand l'ennemi réussit à s'introduire dans la vie d'une personne qui en souffre, cela lui permet d'avoir une emprise considérable sur sa vie. Le rejet, c'est comme une racine qui, au fur et à mesure du temps, va croître et va produire des fruits. Ces fruits vont se manifester sous différentes formes et de plusieurs manières. Parmi les plus courantes, nous trouvons la rébellion, l'isolement, l'insécurité, la culpabilité, l'infériorité, la pitié de soi, la dépression, l'évasion dans la drogue, la haine, l'amertume, le suicide. Et même si la liste n'est pas exhaustive, il n'en résulte pas moins que chaque personne qui manifeste de telles carences souffre d'un esprit de rejet. Ce soir, au cours de cette réunion, j'aimerais simplement vous partager deux vérités. Deux vérités élémentaires. Élémentaires, mais bien des fois, nous les oublions. Tout être humain, je dis tout être humain, a en lui le profond besoin d'aimer et d'être aimé. Parce qu'il a été créé comme cela. Tout être humain a en lui le profond besoin d'aimer et d'être aimé. Son Père, Dieu est amour. Et son royaume est fondé sur l'amour. Lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé dans l'amour. Lorsque Dieu vient vers l'homme, il vient dans l'amour. La Bible nous dit, 1 Jean 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » mais est la vie éternelle. Je dis que Dieu est amour. Et lorsque Dieu vient vers l'homme, il vient dans l'amour. Mais Satan, il déteste l'amour. Parce qu'il sait que lorsqu'il y a de l'amour, il ne peut pas régner. Il règne là où il y a la haine, là où il y a la division, là où il y a l'amertume, là où il y a la tristesse. Ça, ce sont des endroits propices à la manifestation de son royaume. Son royaume est basé sur la manipulation. Sur le mensonge. Jésus-Christ dira, c'est un meurtrier. Et dès le commencement, il en était ainsi. C'est le père du mensonge. En lui, il n'y a aucune vérité. Alors, dès qu'il voit une âme abattue, dès qu'il voit une personne vulnérable, dès qu'il voit une personne qui est dans les ténèbres, qui est enfermée à cause d'un tas de choses, il essaye de le manipuler, tout comme il a manipulé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il essaye de l'appâter. Et dès qu'il le tient, dès qu'il le maintient, il le domine, il l'a servi à de lourdes tâches. Je dis que le diable se sert des circonstances de notre vie. Le diable traque chacune de nos émotions. Et lorsqu'il voit que nous sommes faibles, lorsqu'il voit que nous sommes vulnérables, il se hisse dans nos vies afin de nous asservir à sa tâche. Ne croyez pas que les enfants sont exemptés des attaques du diable. C'est faux. C'est complètement faux. Vous savez, levez les mains ceux qui êtes parents, les papas surtout. Voilà. Est-ce que, tout comme moi, lorsque votre épouse attendait cet heureux événement, vous avez pris le temps de caresser cet enfant, de lui parler, de lui dire que vous l'aimez, de lui dire que vous l'attendez? Vous avez pris le temps de le faire, j'imagine. En tout cas, moi, j'ai pris le temps de le faire. Et ma femme a tellement été contente qu'elle m'en a donné 4. Mais j'ai pris le temps de parler à mon enfant. Parce que vous savez qu'un enfant, dans ses premières semaines, est en vie. Il a des émotions. Il peut considérer le ventre de sa maman comme un endroit accueillant, mais aussi comme un endroit hostile. Un enfant a besoin d'entendre la voix de sa maman, d'entendre les berceuses de son papa. Un enfant a besoin de se sentir aimé et désiré et attendu. C'est vrai, c'est pas vrai? Il n'y a que moi qui a caressé le ventre de maman. Ah bon, vous me rassurez. Vous me rassurez. Rappelez-vous, quand Élisabeth croise Marie, la Bible nous dit que Jean-Baptiste, il tressaillit de joie dans le ventre de sa maman. Il tressaillit de joie. Il manifeste son contentement. Un enfant peut considérer le ventre de sa mère comme un lieu hostile. Savez-vous qu'une mère peut rejeter son enfant dès ses premières semaines? Il y a plusieurs raisons à cela. Peut-être une grossesse à la suite d'un viol, d'un inceste, ou encore le sexe de l'enfant. Il y a des choses qui vont faire que la maman peut rejeter cet enfant. Et l'enfant peut se considérer comme mal aimé. Je vous dis cela parce que mon père a quitté ma mère avant ma naissance. Et ma mère a sombré dans la dépression. Et je n'ai pas eu de papa pour me dire qu'il m'aimait. Je n'ai pas entendu sa voix. Et ma mère, déprimant sur son avenir, en réalité, alors que j'étais dans son ventre, avait déjà décidé de m'abandonner à la DAS, de me confier à une famille d'accueil. Et c'est ce qu'elle a fait. Dès mon enfance, j'ai été placé au sein d'une famille d'accueil. J'étais un enfant très triste. Je ne souriais jamais. Je n'ai pas eu mon père pour m'apprendre à marcher. Je n'ai pas eu ma mère pour me donner à manger. Non, je ne connaissais pas tout ça. Je me cachais sous la table. Pendant des mois, j'ai attendu que ma mère revienne me chercher dans cette famille, mais je n'ai vu personne. Jusqu'à ce que mon père vienne frapper à cette porte et décide de prendre ses responsabilités, d'assurer son rôle paternel. Et pour ce faire, il m'a introduit dans ma nouvelle famille. J'ai fait connaissance avec ma belle-mère Mireille. Mais malheureusement, mon père, quelques mois plus tard, s'est exilé pour la Côte d'Ivoire en me laissant chez Mireille. Et Mireille ne supportait pas ma présence. Alors, c'est à coup de claques, de paroles destructrices qu'elle va me faire comprendre que je n'ai pas ma place au sein du foyer. Je passe mes journées dans la cave. Parfois, je dors dans ma cave où je me suis aménagé une petite chambre, histoire de la fuir, parce que je ne peux pas faire face à cette violence. Et au fur et à mesure du temps, J'ai banni le mot amour de mes pensées parce que l'amour pour moi était un mot qui ne valait absolument rien dire. Ça veut rien dire pour moi l'amour. Et je me suis mis à traîner avec des écorchés de la vie, des gens qui me ressemblent. Et j'aimerais vous dire que cette blessure, ce rejet dont je souffrais, était une emprise pour l'ennemi. L'ennemi m'a enfermé dans une forteresse psychologique. Il m'a fait croire que ma vie était déchue de toute joie, de tout bonheur. L'ennemi s'est servi de tous les faits qui avaient marqué mon enfance pour m'amener à me construire une identité qui était complètement faussée de la réalité. Je partage des squats, je passe mon temps avec des gens qui me ressemblent, des gens qui me comprennent, des gens en qui je me retrouve. Et cette démarche chaotique va m'emmener à consommer de l'alcool et de l'ecstasy qui est un dérivé de la cocaïne. Et ça a été un piège terrible pour moi. Terrible, parce qu'en réalité, il n'y a que lorsque je consommais ces poisons que je me sentais heureux, parce que ce poison me permettait de colmater ce mal-être qui était en moi. La vie était un véritable calvaire lorsque j'étais à jeun, lorsque je devais y faire face. Alors, je dis que ça a été un piège terrible dans lequel je ne souhaitais absolument pas sortir, parce qu'il n'y a que lorsque je suis sous l'influence de cette drogue que je me sens heureux. Est-ce que vous me comprenez? Il y a un mal-être en moi. Il y a une profonde tristesse. Mon âme est en souffrance. C'est pour ça que je m'évade. C'est pour ça que je recherche du bonheur dans l'éphémère, dans des drogues. Et je crois que c'est ça la vie. Je crois fermement que je suis né pour vivre cette vie comme d'autres naissent pour être heureux. Vous savez, l'ecstasy, tout comme l'alcool, agit sur le psychisme, c'est-à-dire l'état d'esprit d'un individu. Et dans le jargon du consommateur, il y a ce qu'on appelle la montée. Cela veut dire qu'on éprouve tous les effets bénéfiques de cette drogue. Et il y a aussi la descente. Là, on éprouve tous les effets négatifs de ce poison. Et dès lors, différents troubles du comportement se manifestent chez le consommateur. Et l'un des plus fréquents, c'est la dépression. Et dans mon cas, cela engendrait des envies de suicide. Parce que je revenais à la réalité. Et cela me déprimait tellement que j'avais envie de mettre fin à mon calvaire. Il m'est arrivé un jour de me lever, d'aller dans ma cuisine, de saisir une lame de couteau de 18 cm et de me la poser sur le bras gauche. Toute la matinée, j'ai posé cette lame sur mon bras en me posant cette question. Si il n'était pas l'heure pour moi de mettre fin à mon calvaire. Je n'ai pas eu la force de me sectionner les veines cette matinée-là. Pendant des heures, j'ai observé mon bras. Pendant des heures, je me suis posé la question et j'en ai fini par me taillader fermement le bras, comme pour m'infliger une punition, celle que la vie m'infligeait chaque jour. Si vous ne me croyez pas, venez voir les traces. Après quoi ? J'ai vécu comme un homme en sursis. Je me détestais. Je n'aimais pas la vie. Voilà pourquoi j'ai adopté un comportement autodestructeur vis-à-vis de moi-même. Armes, argent, cannabis, voilà ma armée. Toutes ces choses, je les ai employées pour mettre fin à mes jours. Toutes ces choses, je les ai employées, j'ai défié la vie jusqu'au jour où Dieu m'arrêta dans ma folie. Ce jour-là, j'ai été arrêté, j'ai été emprisonné et c'est dans cette prison, mes frères et sœurs, que Dieu s'est révélé à moi. C'est cette vérité que je veux vous partager. Dieu vous aime. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Je dis ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Pour moi, ce verset, c'est l'hymne à l'évangile. Il en résume toute sa beauté. Jésus-Christ, l'expression de son amour manifesté sur terre. Lui, l'agneau de Dieu, frappé, humilié, brisé, condamné à une mort atroce, s'est volontairement donné en sacrifice, afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque se tourne vers lui, ne périsse point, mais soit sauvé. Lorsque mon épouse me déclinait cet amour, je me disais en moi-même, mais c'est pas possible. Comment Dieu peut aimer un pécheur de mon envergure? Comment Dieu peut pardonner un pécheur comme moi? C'est pas possible, c'est impensable. Lorsqu'elle me disait que Dieu m'aime, je lui disais, mais Manu, personne ne m'aime. N'utilise pas ce mot ne veut rien dire pour moi. Dès mon enfance, on m'a abandonné. Dès mon enfance, on m'a rejeté. On m'a jamais donné d'amour. Comment je peux connaître ce mot? Comment je peux exprimer? Comment je peux ressentir l'amour? Je ne connais pas ce mot. Ne dis jamais ce mot-là. Pourtant, mes frères et sœurs, à chaque fois que mon épouse me parlait, me déclinait l'amour de Dieu, c'était comme si Dieu frappait à la porte de mon cœur. C'était comme si Dieu était en train de réveiller un amour qui sommeillait depuis tellement longtemps dans ma vie. Un amour qu'on avait étouffé, un amour qu'on avait méprisé, un amour qu'on avait mis de côté, qu'on avait enterré. C'est comme si Dieu voulait réveiller cet amour. Mais vous savez quoi? Résister, lutter contre l'amour. Telle est l'attitude d'une personne qu'on a rejetée. Et pendant toutes ces années, j'avais toujours posé mes regards sur les choses que je n'avais pas, sur les faits qui avaient marqué ma vie, sur toutes ces cicatrices. Et je m'étais considéré comme une victime, comme une personne inférieure aux autres. Mais il y a la réalité. On me parle d'amour, on me parle de pardon. Et moi, je me considère comme une victime. Et je suis enfermé en prison. Raison de plus pour ne pas laisser transparaître une émotion. Vous savez, en prison, les larmes sont interdites. Elles sont synonymes de faiblesse. Les larmes sont interdites. Tu n'as pas le droit de pleurer en prison si tu veux qu'on te respecte. Tu n'as même pas le droit d'ouvrir une Bible devant tes codétenus si tu veux qu'ils te respectent. Tu n'as pas le droit de pleurer. Tu n'as pas le droit de laisser transparaître ne serait-ce que le soupçon, l'ombre d'une émotion. Pourtant, mes frères et sœurs, je revois encore mon être prosterné dans cette cellule, pleurant devant Dieu. Cet instant, je me sentais tellement sale, que je n'osais même pas lui parler de peur qu'il me châtie. Je me posais vraiment la question, pourquoi suis-je sur cette terre? Est-ce que je suis bon qu'à me droguer? Est-ce que je suis bon qu'à voler? Est-ce que je suis bon qu'à vivre une vie déplorable et misérable? Est-ce que c'est ça qu'on appelle la vie? Tout un tas de questions venaient s'écraser dans mes pensées. Et c'est là que Dieu posa sa main sur mon âme attristée, sur mon cœur abattu. C'est là que Dieu intervient pour me délivrer de ce fardeau qui pesait depuis tellement d'années sur mon âme. Vous savez, l'objectif suprême de Dieu, c'est de nous amener à la connaissance de son Fils. La parole de Dieu, c'est la parole qui libère, c'est la parole qui apporte la vie. La parole de Dieu est la porte pour le royaume du Père. La parole de Dieu nous démontre l'amour de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ qui s'était fait homme, La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est mort pour le pécheur. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ qui annonce la grâce de Dieu à tous ces hommes qui sont perdus, à tous ces hommes qui sont en prison, à tous ces hommes qui ont tellement besoin d'être secouru. Et j'ai décidé de faire ce pas. J'ai donné ma vie à Dieu. J'ai changé de camp. Et deux jours plus tard, voici le diable qui repointe son nez. Il commence à me flageller. Il me martèle. Il me punit psychologiquement. Il me dit, comment tu peux imaginer que Dieu t'a pardonné? C'est comme s'il prenait une glace et me la mettait sous les yeux en me disant, mais regarde, regarde qui tu es véritablement. Tu n'es qu'un pécheur, tu n'es qu'un drogué, tu n'es qu'un alcoolique, tu n'es qu'un voleur. Ta mère t'a abandonné, ton père t'a abandonné, même la société t'a rejeté. Tu es enfermé avec des gens qui te ressemblent, des gens qui sont comme toi, qui sont accros à la bouteille, accros à la violence, accros à la haine. Ce sont ces gens qui te ressemblent et ta place, elle est là, parmi les tiens. Jamais Dieu peut pardonner un pécheur de ton envergure. Il me matraquait psychologiquement avec des faits qui étaient vrais. Et je me posais vraiment la question, mais comment faire la part des choses? Qui croire? En qui me confier? Parce qu'il avait raison, parce que c'est ce que j'étais. Mais la parole de Dieu a dit quoi? En Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. En Jésus-Christ, vous êtes des nouvelles créatures. En Jésus-Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Je dis, la parole de Dieu a dit quoi? Que Dieu a envoyé son Fils mourir pour moi, afin que je ne périsse point. Je dis que s'il y avait un seul pécheur sur cette terre, Jésus-Christ serait descendu pour le sauver. Un seul! Jésus-Christ est venu chercher cette brebis égarée, perdue, cette brebis malade, à l'article de la mort, cette brebis que j'étais et que nous étions. Je dis que Jésus-Christ est venu pour ceux qui sont malades, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont besoin d'être conduits dans son royaume d'amour, son royaume de grâce. Lorsque Jésus-Christ est entré dans cette synagogue et qu'il a fait la lecture de Ésaïe, il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle, pour libérer les captifs, pour redonner la vue aux aveugles, pour guérir, pour délivrer les opprimés. » Il dit « Aujourd'hui, pas demain, il dit aujourd'hui, cette parole est accomplie, la grâce de Dieu s'est manifestée en ma personne. Jésus-Christ, mes frères et sœurs, a été à la croix comme une victime. » à la croix, il a pris la position qui nous était destinée. À la croix, il a été frappé pour nous. À la croix, il s'est appauvri afin de nous enrichir. À la croix, il a été brisé afin de nous donner sa justice. Il a versé son sang. À la croix, il est mort afin de nous apporter la vie. Et l'amour de Dieu a été plus fort pour moi que les mensonges du diable. Je dis que l'amour de Dieu a été plus fort pour moi que les mensonges du diable. L'amour de Dieu est plus fort que tout. Dieu a estimé ma valeur, Dieu a estimé notre valeur, et il a donné ce qu'il avait de plus cher pour sauver ce qu'il aimait le plus. Et je dis avec conviction que le sacrifice a été à la hauteur de son amour. Le sacrifice a été à la hauteur de son amour. Ouh ! Qu'est-ce qu'il est bon ! Qu'est-ce qu'il est bon, notre Dieu ! Qu'est-ce qu'il est bon, notre Seigneur ! Il y a de la joie ! Il y a de la joie pour tous ceux qui se tournent vers lui. Il y a de la joie pour tous ceux qui se confient en lui. Il y a de l'espoir, il y a de l'espérance en Jésus-Christ. Jésus-Christ et notre Sauveur. Et c'est important de garder ça dans vos cœurs, que Dieu vous aime, parce que vous êtes des hommes, parce que vous subissez, tout comme moi, les attaques de l'ennemi. Je ne sais pas si vous vous êtes pas encore convertis, tournés vers le Seigneur, mais sachez qu'il y a de l'espérance pour tous ceux qui se tournent vers Jésus-Christ. Le désir de Dieu, c'est de vous garder avec lui. Le désir de Dieu, c'est de vous communiquer son amour. Le désir de Dieu, c'est de vous réintroduire au travers du deuxième Adam dans le jardin d'Éden, afin d'être au bénéfice de sa présence et de sa grâce. Dans le monde, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Énormément de gens qui souffrent. Je me souviens de cette première nuit en prison où il y avait deux jeunes qui étaient dans la cellule face à la mienne. Ils avaient mis le feu à leur cellule. Et ils étaient accrochés aux barreaux. Ils criaient « Aidez-nous, faites quelque chose pour nous, nous allons périr. » Mes frères et sœurs, j'ai vu ces deux jeunes être consumés par les flammes. Devant moi, j'aurais tellement voulu être là, tellement vouloir leur dire quelque chose. J'aurais tellement désiré les rencontrer en promenade et leur dire « Hé, je connais une personne, même dans cet enfer, il peut vous libérer. Même dans ce tourment, dans cette angoisse, il peut vous apporter la joie. Même dans cette captivité, il peut vous apporter la paix. » J'aurais tellement voulu être là, mais ces deux jeunes sont morts. Aujourd'hui, dans l'Église, beaucoup de gens ont le visage radieux, mais pourtant ils souffrent intérieurement. Des mères qui sont rabaissées par leurs maris, rejetées par leurs enfants. Des femmes que le diable utilise, que le diable manipule à cause de leur amour, à cause de cet amour qu'ils portent à leur mari, à leurs enfants, cet amour qui protège, cet amour qui ne révèle pas, qui ne dénonce pas les choses. Alors le diable vient, il se sert de cet amour afin de paralyser ces femmes qui sont brisées, qui parfois sont des objets chez eux, qui parfois sont même insultées. Ces femmes qui souffrent. Jésus-Christ dit, je suis venu pour soulager, pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les opprimés. Et je dis ce soir que c'est à ces personnes que Dieu veut parler. Combien de couples à l'église ne s'épanouissent plus? Combien de couples à l'église servent le Seigneur de la bouche, mais dans leur âme, ils sont brisés. Ils sont maintenus par l'ennemi. Ils sont captifs du diable, tout ça, parce que leurs enfants se rebellent, parce que leurs enfants ont une attitude qui est déplorable, parce que leurs enfants sont enfermés dans toute espèce de choses qui ne glorifient pas Dieu. Et comme ils aiment leur enfant, ils le protègent, ils le couvrent, ils le gardent, et le diable se sert de cet amour pour les détruire. Dieu a dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Une âme abattue, c'est un homme qui souffre. Une âme abattue, c'est un homme qui ne s'épanouit pas. Je me souviens de ce couple de drogués. À l'époque, je n'étais pas chrétien. Ils avaient une petite fille, un appartement. Bref, cet homme, pour moi, à mes yeux, il avait tout pour être heureux. Mais pourtant, il est là devant moi et il s'injecte son poison dans ses veines. Et là, je le regarde et je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Tu as une fille, tu as une épouse, tu as un travail, tu as un appartement, tu as tout pour être heureux. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Et je vois ses yeux sans vie, sans éclat. Je vois ses yeux et il me dit, à chaque fois que je m'injecte ce poison, je sais que c'est ma vie que je retire. Mais il me dit aussi, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Ce couple a été retrouvé mort dans un bâtiment. Ils ont péri par overdose, laissant une orpheline. J'aurais tellement voulu les voir aujourd'hui là, et leur dire, hey, moi je connais une personne qui peut donner plus de joie que ce poison. Je connais une personne qui peut te délivrer de cet enfer. Je connais une personne qui peut changer le cours de ta vie à jamais. Je connais une personne qui peut te donner la force de renoncer à cela, de dire non au diable. Je connais une personne qui peut t'apporter la vie, qui peut t'apporter la lumière dans tes ténèbres. Cette personne, c'est Jésus. Mais ils sont morts. Lorsque nous parcourons les rues, lorsque nous faisons des actions d'évangélisation, chaque jour, je ne sais pas pour vous, mais nous en région parisienne, nous accueillons tout un tas de personnes qui sont pliés par la vie, qui sont KO debout, qui n'y croient plus. Lorsque vous regardez leurs yeux, il n'y a rien. C'est le néant dedans. Ça reflète l'état de leur âme, piégée par l'ennemi. Quel est le message? Qu'est-ce qu'on leur dit? Quel est notre comportement? Mais pourquoi cela? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'homme est en souffrance. Je dis que l'homme a besoin de la lumière. L'homme a besoin de la main de Dieu. L'homme a besoin de rencontrer Jésus-Christ. Et c'est le message que je vous apporte ce soir. Et c'est là-dessus que je vais conclure. Jésus-Christ m'a affranchi. Il m'a guéri. Il m'a donné la force de remonter la pente. Il m'a donné la force de prendre mon téléphone, d'appeler ma mère et de lui dire « Hey, maman, même s'il y a des années qu'on ne s'est pas vu, je tenais à te dire quand même que ton fils aujourd'hui est marié et qu'il a 4 enfants et que ces enfants-là, ils ont une mamie et c'est toi. » Et Dieu m'a montré qu'au travers d'humilité, qu'au travers d'un acte d'amour, il était capable de restaurer des vies. Il était capable de renouer des liens. Et j'ai appelé mon père et je lui ai dit « Papa, je t'aime. Peu importe ce que tu as fait hier, aujourd'hui je suis une nouvelle personne. Une personne qui aime. Et je tenais à te le dire. Viens, même si tu es en Côte d'Ivoire, viens passer un moment à la maison. Tu vas voir tes petits-enfants. » Et Dieu m'a utilisé pour renouer des contacts entre mon père, ma mère, et pour l'an 2000, en famille, nous avons passé le nouvel an. Je dis que Dieu est un Dieu de grâce. Dieu m'a blotti dans son amour. Dieu a passé sa main sur mon âme. Ça a été comme un baume restaurant, me donnant la force de faire face à mon passé, la tête haute. Vous savez, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'avais fait beaucoup de mal à la société et j'en étais conscient et je m'étais repenti pour cela. Mais Dieu m'a montré qu'il y avait au-delà de la repentance. Il y a aussi ce qu'on appelle la restitution. Rendre le mal par le bien. Rendre le mal par le bien. Restituer, redonner à la personne ce qu'on lui a injustement pris. Et vous savez ce que j'ai fait? Alors que j'avais été jugé, condamné pour les faits qui m'étaient reprochés, des vols à main armée, j'ai été frappé à un établissement bancaire. J'ai demandé à voir le directeur. Le directeur est venu. Il s'est présenté devant moi. Je lui ai dit bonjour monsieur. Il m'a dit bonjour. On ne se connaît pas, mais voilà. Il y a 4 années en arrière, je suis venu dans votre banque et je l'ai attaqué. J'ai été condamné pour cela. Et aujourd'hui, je suis venu parce que je veux faire quelque chose pour vous. Il me dit, ah bon? Mais vous n'allez pas nous reprendre la caisse quand même. Je lui ai dit, non, je veux vous rendre l'argent que je vous ai volé. Je veux vous rendre l'argent que je vous ai volé. Je sais, c'est une somme astronomique, mais ce n'est pas grave. Je travaille à présent. Dieu m'a donné un travail. Mettez un plan de financement et moi, je vous rembourse tous les mois. Ça ne s'est jamais vu. Mais Dieu l'a fait. Et c'est ça, l'attitude qu'on doit avoir. On a été blessé hier, mais en Jésus-Christ, on est guéri. Mais ne croyez pas que les gens qui nous ont blessés sont en bonne santé. Eux aussi sont malades. Eux aussi ont besoin d'entendre la parole de l'Évangile, d'être guéris dans leur âme. Et vous êtes des instruments que Dieu veut utiliser pour guérir ces personnes. Vous êtes ces ponts par lesquels Dieu veut passer pour toucher ces personnes au travers d'un témoignage vivant. Mon frère, ma sœur, si tu restes emprisonné dans l'amertume, tu ne t'épanouiras jamais. Si tu restes prisonnier de tes échecs, de tes tristesses, de tous les faits qui ont marqué ta vie, tu ne t'épanouiras jamais. Et à cause de cela, ton environnement sera attristé, sera abattu. Tu ne connaîtras pas la paix parce que tu auras une porte que le diable utilisera pour t'affecter, pour saccager ta communion avec Dieu. Jésus-Christ a dit, venez à moi, Allez, venez, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vais vous donner du repos. Je vais vous donner un joug, un fardeau qui est doux et léger. Venez à moi, ne restez pas avec vos souffrances, ne restez pas avec vos fardeaux. Il y a des gens, ils cajolent leurs souffrances, ils cajolent leurs fardeaux depuis des années. C'est comme ça. Jésus-Christ, il dit, venez à moi. Je vais faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Je vais vous soulager, moi. N'ayons pas une relation avec Christ qui est monotone. Ayons une relation vivante avec nos seigneurs, parce qu'il est vivant. Ce que je vous apporte ce soir, c'est tout simplement ce qu'il a fait dans ma vie. Je n'invente rien. Je vous raconte, je vous témoigne de l'amour de Dieu pour un pécheur comme moi. Et j'aimerais simplement vous inviter à vous lever. J'aimerais prier. J'aimerais réellement que ce moment soit un moment où nous puissions nous approcher du Seigneur. Ne perdons pas notre temps. Nous ne sommes pas simplement venus ce soir écouter de belles louanges ou un bon sermon. Non, nous sommes venus pour être en contact avec notre Dieu, pour lui décharger nos souffrances, nos fardeaux, nos soucis, pour prendre son repos, pour prendre sa joie, pour prendre sa paix. C'est cela, être en communion avec un Père. Nous sommes au bénéfice de sa grâce. Alors ne fermons pas les portes à la grâce de Dieu. Levez les mains vers le Seigneur. Peut-être que le pasteur peut nous accompagner au travers d'un piano. J'aimerais simplement, Église de Jésus-Christ, vous encourager à élever la voix. Élevez la voix, prenons un temps vers le Seigneur.